et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Ah, quelle belle journée pour faire de la radio. Il est présentement midi, une minute. Quel beau week-end en tant que température. Et aujourd'hui, c'est 21 ensoleillé. Demain, 19 généralement ensoleillé. Mercredi, 16 alternance de soleil et nuages. Ah, Pascal, c'est vrai, c'est-tu le fun quand il fait beau?
Ça revitalise quelqu'un.
C'est l'enfer.
En fin de semaine, les gens étaient beaucoup sortis. Là.
Ah oui.
Ils en profitaient. Là.
C'était fou, moi, dans le quartier chez nous. Les enfants dehors en vélo, en trottinette, les enfants qui jouent au parc. Chantait une vie.
Les terrasses semblent s'organiser aussi un peu partout dans la
ville.
Ce qui m'a fait rire, là, moi, dans la donnée que j'ai reçue.
Ah, ouais, donc.
J'ai eu une grosse fin de semaine, puis en tout cas, tout ça, pour dire qu'hier, ma soeur et moi, on s'est pogné une envie d'ouvrir l'été avec un casse-croûte. C'est ceux qui ouvrent juste l'été, là.
Quelle bonne idée.
Fait qu'on s'est gâtés en fin de journée. On était comme, on va profiter de quelques rayons de soleil qui terminent ce week-end-là avec une grosse patate, là. Une bonne poutine de casse-croûte.
Vous avez bien fait.
C'était tellement plein, Jeff.
C'est sûr.
Moi, j'ai travaillé longtemps là-dedans.
Oui.
Les frites n'étaient pas blanchies. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire qu'ils ont été dans le jus, pas à peu près.
En effet.
Puis se sont fait prendre par le fait que tout le monde voulait vivre quelque chose de l'été.
Parce
je trouve
que
ça magnifique
sinon,
et folklorique.
Sinon, les frites sont blanchies pour que ça aille plus vite. Fait que là, c'est comme, on a eu un débordement.
C'est fait prendre les culottes à terre.
C'est ça, mais bon, c'est positif. Alors oui, très belle fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez fait justement de votre fin de semaine? 418-971-101. Moi, j'ai commencé ça avec le gong show à la salle Albert Rousseau.
Et ça a été un succès.
Ouais, 13h, je vais vous présenter mon numéro, je vais vous le faire jouer. C'est le collègue Nathan Meyer qui a justement filmé le tout à l'aide de son téléphone parce que ça va être disponible sur YouTube dans à peu près un mois. Alors, Nathan Meyer aussi était très, très, très bon. J'ai pas pensé, moi, de filmer son numéro quand il faisait. C'était vraiment
Là, t'étais un peu sur l'adrénaline, là. Je peux pas croire.
Ah oui, vraiment. Je passais 8e sur 12. Donc là, t'en as 7 qui passent avant toi. Puis là, tu regardes ça. Puis il y a un entraque après le 6e. Puis là, t'étires le temps. Tu te demandes,
ça joue sur
donc
ton
comment
stress.
Ça va aller exactement. Mais ça a super bien été. J'ai été
Juste le gars, félicitations, Jeff. Puis honnêtement, moi, tu t'es mis en danger. Puis ça, j'admire ça beaucoup chez les gens.
Merci.
Tu sais, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Plus tu le fais, plus tu es à l'aise de le faire à un moment ou à un autre. Mm-hmm. Ça reste que le stress est là. Puis je trouve que c'est un bel impact aussi sûrement auprès des auditeurs.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des gang shows, mais
non,
de cette zone de confort-là.
Puis j'ai été sur un feeling très particulier toute la fin de semaine à dire... J'ai réussi à faire rire une salle Albert Rousseau.
Je pense que tu as vécu ce que beaucoup d'artistes vivent et disent à quel point que ça peut devenir une drogue, puis que c'est difficile de s'en départir par après. Les gens après sport, mettons aussi un athlète depuis toujours, là, de se redéfinir, après, ça doit être difficile.
Vendredi soir, je me suis endormi à 3h du matin parce que j'étais encore sur un high et j'ai dit à ma blonde, sais-tu quoi, si j'ai une autre invitation, je leur réessaye.
Ah, tu vois.
Parce que j'ai tellement aimé ça. Nathan Meyer m'avait dit, tu vas voir, Jeff, le premier rire que tu vas aller chercher à la foule, c'est une tonne de pression qui va descendre de tes épaules. Puis là, tu vas commencer à t'amuser.
Tu l'entendais-tu pour vrai?
C'est exactement ça qui est arrivé. Le rire, ah oui. Ah oui, vraiment. Ça m'a motivé carrément.
OK.
Après, le premier gag que j'ai préparé en me disant, puis là, vous allez voir tantôt à 13h quand je vais faire jouer l'extrait pour ceux qui ne l'ont pas entendu ce matin dans le pit stop, mais je me disais quand même assez dark mon premier gag. Fait que... comment les gens vont réagir. Et là, quand j'ai entendu les gens rire, j'ai entendu Charles, un des juges, Charles Deschamps, un humoriste, rire aux éclats. J'ai fait « OK, c'est beau, je le guys. » Et
là,
j'ai
part.
Foncé là-dedans. Donc, je vous fais entendre ça tout à l'heure aux alentours de 13h pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais c'est ça. Puis juste pour dire la température, c'est tellement le fun. Hey, moi, on était avec les enfants avant, en fin de semaine. Gabou et Oli, ça faisait longtemps que je les avais vus, les petites pommettes rouges dans le même. Ah ouais, en vélo! On s'en va dans la cour d'école, on s'en va rejoindre des amis jouer au soccer. OK,
ah,
on s'en va à une autre place. Hey, on fait ci, on fait ça. Ils ont passé le week-end dehors. C'était la fête à Lily, la petite fille à Nick, le frère à Val. Et, tu sais, les enfants, là, tu sais, le temps là, qu'on prenne un petit apéro, les adultes, tout le kit, là, ben, eux autres, au parc pendant 2 heures de temps.
Ouais, c'est ça, la vie.
Ils sont venus à un moment donné, ils ont dit, les burgers, sont-tu prêts? Parce que là, on a faim en tabarouette.
Ils ont dû sentir du parc.
Ça,
aussi,
ben oui.
En fin de semaine, l'odeur du barbecue, ça fait-tu du bien? C'est des petits bonheurs qui nous font tellement changer d'air puis revivre. Là, hier, c'était ma première nuit avec une petite craque dans la fenêtre. Là. Pendant la nuit, laisser l'entrée de l'air de dehors, wow.
Non, très, 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 très wow. Luc Laliberté va être avec nous dans l'émission pour parler de ce qui est arrivé cette fin de semaine, ce samedi à Washington, où un homme a tiré des coups de feu à proximité du président américain. Donald Trump, Emmanuel Latraverse, évidemment, va être avec nous pour le caucus. Mais avant, Pascal, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité?
On suit la première ministre Christine Fréchette, première ministre du Québec, hein, dans sa première mission à l'étranger aujourd'hui à Washington. Donc, une série de rencontres à prévoir à deux mois du début officiel des négociations qui concernent la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est prévu pour le 1er juillet et c'est pour ça qu'on y est. On veut rencontrer des élus démocrates, républicains, mais aussi des représentants du milieu des affaires. Ça devrait être une mission assez clair, Jeff, 24-48 heures là, pour comprendre les impacts de la guerre tarifaire puis évaluer les options pour soutenir l'économie québécoise. Elle a rencontré avant de partir les gens du milieu économique ici dans la province pour essayer de recueillir des préoccupations. Donc, il y a eu un travail terrain aussi qui a été fait avant tout cela. Mise à jour économique du gouvernement fédéral de Mark Carney avec le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Ce sera demain. Petite baisse du déficit prévu pour l'année 2026-2027. C'est ça que Radio-Canada a appris. On peut s'attendre à ce que les revenus du gouvernement fédéral soient plus élevés que les évaluations qui paraissaient là, dans le budget de novembre dernier. Donc, ça sera à suivre également à ce niveau-là. Dans un dossier un petit peu plus près de chez nous, puis je te dirais, c'est vraiment le dossier principal aujourd'hui. C'est le début de l'enquête publique sur le décès de Maëlyn Lugez. Oui. C'est une ado retrouvée morte à Lévis. On retourne au niveau de 2024, le 7 novembre. Elle avait été tristement retrouvée sans vie dans un ruisseau, dans une forêt là, située à quelques centaines de mètres de son école. Ça a pris 24 heures avant qu'on la retrouve après la demande de disparition aux policiers. Et c'était dans cette de Saint-Jean-Chrysostome. Donc, elle avait quitté l'établissement de son école sur l'heure du dîner, puis elle n'a pas été revue avant les 24 heures écoulées. Là. Donc, perdre une enfant de 13 ans, c'est quand même pas rien. C'est difficilement concevable. Personne ne peut vraiment mesurer une telle douleur. Et c'est ce qu'a dit le coroner Luc Malouin en ouverture de l'audience aujourd'hui. Tout le monde est un peu rivé sur ce cas-là. On veut comprendre ce qui s'est passé. Puis on veut aussi trouver les problématiques dans cette recherche-là de l'enquête. Donc, les proches de Maëlyn Lugez regrettaient que le rapport de cette situation-là, là, j'ai une grande détresse psychologique là, auprès de la jeune fille, puis que ça n'a peut-être pas été pris là, en considération. C'est un coroner expérimenté, M. Malouin, Maître Malouin, qui s'en occupe. Il a piloté l'enquête publique sur la mort des petites Nora Romy Carpentier, je vous rappelle, du côté de Saint-Apollinaire en 2025. Donc, une vingtaine de témoins qui seront entendus durant 5 jours d'audience, Jeff.
Oui, et avec les petites Carpentier, justement, il y avait amené plusieurs recommandations qui sont appliquées maintenant par la SQ. Donc, c'est quelqu'un de très, très, très crédible. Alors, bien hâte d'entendre ça. C'est justement une petite fille, malheureusement, qui à 13 ans avait déjà des idées noires, là, donc des pensées suicidaires.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Emmanuel Latraverse, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un beau week-end?
Très beau.
Ah oui, il faisait beau, la vie est belle. Dans ce temps-là, on revit ici au Québec réellement quand la belle température s'en vient. Christine Fréchette quitte cette belle température du Québec pour aller à Washington. Elle est là aujourd'hui en mission économique. Tu en penses quoi de cette allée rapide de Christine Fréchette à Washington?
Ah, je pense que c'est un très bon coup. Moi, j'étais de ceux qui avaient remarqué et qui s'inquiétaient là, de voir l'espèce de désengagement diplomatique du premier ministre Legault là, sur le front des négociations commerciales avec les États-Unis. C'est une chose de dire que c'est le gouvernement fédéral qui fait office de corps arrière là, tu sais, dans la partie de football que ça implique, mais ça ne veut pas dire que les premiers ministres des provinces doivent pour autant être absents, là, surtout quand il y a certains dossiers comme l'aluminium, le bois d'œuvre, pour ne nommer que ceux-là, où le Québec est la province la plus ciblée et la plus stratégique là-dedans. Donc, un très bon coup de sa part. Il faut s'entendre, là, Mme Fréchette ne va pas revenir avec des résultats concrets. Là.
En
c'est
effet.
Pas le but de l'exercice. Donc, elle a rencontré ce matin le nouvel ambassadeur canadien, Mark Wiseman. Peut-être que ça va lui faire du bien, lui, d'avoir un petit cours de Québec
de
101, là,
ouais,
parce qu'il n'a pas l'air trop allumé sur la réalité québécoise. Et je pense que le gros coup de Mme Fréchette, là, on vient de l'apprendre, c'est qu'elle va avoir obtenu une rencontre bilatérale avec Jameson Greer, qui est le représentant au commerce. Donc, c'est, tu sais, on parle souvent de monsieur le TNIC, du secrétaire au commerce, de ses coups de gueule puis de tout ce que tu veux, mais dans le fond, la personne qui négocie, là, c'est le représentant au commerce, donc Jamieson Greer. Et donc, Mme Fréchette a pu avoir une rencontre avec lui. Puis ça, je pense que c'est important dans le sens que ça lui permet à elle d'exposer la cause du Québec, là, des enjeux des entreprises québécoises, etc. Mais ça permet aussi, je pense, pour elle, comme première ministre, d'avoir une rencontre bilatérale avec un des plus importants des décideurs dans ce dossier-là. Ça lui permet, elle, de se faire une meilleure tête sur quels sont les enjeux, de ne pas être toujours dépendante des comptes rendus par personne interposée, soit qui viennent du fédéral ou qui viennent de nos délégués commerciaux au sud des États-Unis. Donc, je pense que ça c'est vraiment un bon coup. C'est constructif. Ça montre aussi la force de la diplomatie québécoise d'être capable de travailler avec le Canada pour obtenir ce genre de rencontre de très, très, très haut niveau.
Ouais, t'es pour reprendre ton analogie de tout à l'heure, c'est pas parce que t'es pas carrière que t'as pas le droit de porter le ballon au football. T'sais, ça existe, un porteur
Mais
de ballon.
Regarde, M. Carney a une approche, t'sais, Team Canada, on dit beaucoup, il y a la première rencontre aujourd'hui de son comité consultatif là, dont on parlait la semaine dernière avec lequel il y a des représentants des grandes centrales syndicales, de différentes associations manufacturières, du monde des affaires, mais ça ne veut pas dire que les premiers ministres des provinces n'ont pas un rôle à jouer. Le danger, c'est quand ils rament à contre-courant, là, tu sais, un peu comme ce qu'a fait de faire cavalier seul, comme avait fait M. Ford l'an dernier avec sa campagne de pub qui a fait un peu au bout et qui a amené à une rupture des négociations. Si le Québec est capable de tirer son épingle du jeu en ramant dans la même direction que tout le monde, ben oui, c'est sûr que c'est très utile. Puis moi, je soupçonne que c'est pas le dernier voyage à l'étranger que va entreprendre Madame Fréchette, qui est très à l'aise, là, justement, dans ce domaine-là là, et dans ce genre de contexte-là.
Vraiment, à cet effet-là, on écoute Joël Lightbound sur nos ondes vendredi dernier parler de cette mission de Christine Fréchette.
On est tous dans la même équipe, puis je sais que Mme Fréchette est en communication constante aussi avec tant le premier ministre et son équipe, mais Dominique Leblanc aussi qui est en charge du dossier.
Ouais. Elle est vraiment en train de bien se positionner sur l'échiquier politique parce que là, rencontre importante aujourd'hui à Washington, elle est très bien vue de la part de Mark Carney comme étant justement quelqu'un qui va jouer en équipe. Alors, elle marque des points très rapidement. Ce qu'elle se devait de faire, elle le réalise à l'heure actuelle.
Oui, très clairement. Je pense que, tu sais, on a reproché un peu la semaine dernière lors de son remaniement ministériel qu'il n'y avait pas une rupture claire avec l'ère Legault, etc. Je pense que la rupture, c'est elle, c'est son style de leadership. Mm-hmm. Premièrement, une prise de pouvoir très minutieusement et efficacement orchestrée. Donc, elle n'est pas arrivée là à s'embarrer dans une pièce, à regarder ses dossiers pendant 3 semaines, à se demander ce qu'elle allait faire. C'est une première ministre qui sait où il s'en va, qui est très clairement consciente qu'elle a très peu de temps pour essayer d'inverser la tendance et de montrer qu'une CAQ 2.0 peut apporter quelque chose à l'espace public et qu'une CAQ 2.0 est possible, que ce n'est pas strictement le prolongement de l'ère Legault, là. Et ça, jusqu'ici, elle le réussit, je pense, très, très bien.
Au niveau canadien, Emmanuel, aujourd'hui, annonce d'un fonds souverain canadien de la part de François-Philippe Champagne. On l'écoute au HEC Montréal tout à l'heure en conférence de presse.
Une annonce historique. Effectivement, le Canada lance son propre fonds d'investissement souverain. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est de permettre aux Canadiens et Canadiennes à travers le pays de pouvoir contribuer, mais aussi de profiter de cette création de richesses collectives. Dans le fond, on se donne des outils de plus dans notre coffre à outils pour bâtir le développement économique.
Bon, Emmanuel, pardonne-moi mon ignorance, mais c'est quoi un front d'investissement? gouvernement souverain canadien. Moi, si je décide de prendre mes petites économies de 1 000$ puis pitcher ça là-dedans, je vais-tu faire de l'argent? Comment ça marche, là?
La promesse, éventuellement, c'est que oui. Écoute, l'exemple le plus simple d'un fonds souverain, là, pour que les gens nous suivent, là, c'est prendre la Norvège, mm-hmm. qui a pris les revenus du pétrole
okay.
dans un fonds qu'on investit. Et on sert de ces revenus-là pour financer la transition énergétique en Norvège.
D'accord.
Qui a permis justement à la Norvège, qui est un pays pétrolier-gazier, d'être un des leaders mondiaux en termes d'électrification des transports, etc. Donc, ce qu'on en comprend, parce qu'il lance les consultations pour le mettre sur pied,
okay.
mais c'est que le gouvernement Carney mettra à peu près 25 milliards de dollars dans ce fonds-là, dans lequel aussi les Canadiens pourraient investir et que ce fonds, ensuite, investirait à son tour dans certains des grands projets nationaux, que ce soit, on parle toujours du port à contre-cœur, là,
oh,
mais
oui.
La mine de graphite, le port de Churchill, etc., et que ça rapporterait des dividendes.
D'accord.
Là, à un moment donné, ben, tu as une roue là, où tu réinvestis, tu refais de l'argent, etc. Sur papier, ça a l'air d'être une bonne idée, mais il y a des mais qui viennent avec ça. Rappelle-toi, en 2017, Bill Morneau, ministre des Finances, à l'époque, avait lancé la Banque d'infrastructure
oui,
du Canada.
Oui, je me souviens très bien de ça.
On avait dit, cette banque-là va permettre de prêter de l'argent puis de monter, aider à mm-hmm. faire les montages financiers de grands projets d'infrastructures qui sont très difficiles à financer au Canada. Ça prend à peu près 7 ans avant que cette banque-là décolle puis qu'elle se trouve où elle s'en allait, qu'est-ce qui arrivait, comment on allait gérer ça. Ça a vraiment été comme un début totalement désastreux, ce qui fait que 8 ans plus tard, elle commence effectivement à porter fruit. Donc, est-ce que la même chose va arriver avec ce fonds souverain? On pose la question. Puis deuxièmement, est-ce que le fonds souverain va devenir une patente politique? Le fonds souverain, ça marche s'il est vraiment indépendant du gouvernement, s'il est vraiment comme une société de la couronne et qu'il est vraiment géré par un comité d'investissement aviseur, tu sais, avec des PDG de banque, là, des vrais bosses là, de la finance, qui investissent là où c'est rentable et payant. Pas là où le gouvernement voudrait qu'on dépense l'argent.
Ouais,
tu comprends-tu
je comprends très bien. Puis là,
donc, le fonds d'investissement du régime de pension du Canada, par exemple, investit de manière très indépendante. Teachers, le fameux gros fonds de pension des enseignants de l'Ontario, est géré de manière indépendante. Donc, mm-hmm. est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Est-ce que ça va... On verra. Mais il y a, donc, c'est une idée pour l'instant qui peut être porteuse, mais qui contient son lot d'écueils.
Ouais, puis par expérience ou par historique, un gouvernement libéral canadien plus tendance à centraliser le pouvoir et à prendre les décisions qu'à le laisser indépendant.
Bien, je te dirais qu'avec, tant qu'on a quelqu'un comme M. Carney, qui est aux commandes de l'État, que son ministre des Finances, c'est François-Philippe Champagne, que c'est Tim Hodgson qui est en charge des ressources naturelles, c'est leur bébé. C'est pas à court terme, mais est-ce que des gouvernements futurs vont vouloir instrumentaliser cette banque-là, ce fonds-là, mm-hmm. Justement pour financer des bébelles, puis des projets, puis des lions électriques, puis des affaires de même? Je pense que c'est un peu là qu'il y a une inquiétude. Puis, le fond du problème, je parlais à quelqu'un que je connais bien qui travaille justement dans un des grands fonds de pension là, canadiens. Puis, il me disait, Emmanuel, le problème, c'est pas qu'il manque d'argent au Canada. Là. C'est pas qu'il manque d'argent pour investir. Le problème, c'est qu'il manque de projets.
Ouais.
Parce qu'on est encore dans la logique où c'est tellement lourd mettre sur pied ces grands, grands projets-là que c'est ça qui est difficile. Donc, le gouvernement dit que d'ici un an, on va voir les fruits de sa stratégie des grands projets, là, qu'il y en a où la pépine va être dans le sol, etc. Mais disons qu'on est encore en train de bâtir l'architecture de quelque chose qui un jour pourrait porter fruit, mais on en est, tu sais, c'est pas demain matin que ça va vraiment faire une différence.
En effet. On termine le caucus avec Emmanuel Latraverse, segment du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase, avec Alexandre Boulris, qui a été officiellement accueilli dans la famille de Québec solidaire. Et tiens, tiens, Emmanuel, il va nous expliquer que même s'il provient du NPD, il est souverainiste.
Revenir à la maison, revenir à Québec solidaire, c'est aussi revenir au pays, au Québec. J'aime beaucoup les pays tout autour. Il y a plein de gens qui œuvrent inlassablement pour les droits de la personne, la justice sociale et le bien commun. Mais mon appartenance profonde et inébranlable, c'est ici, chez nous. Et j'arrive dans ce nouvel épisode avec une conviction profonde. Il n'y a pas de projet de pays sans projet de société. Et ce n'est pas un projet de société que de stigmatiser, discriminer, diviser ou blâmer.
Bon, on comprend très bien pourquoi il n'est pas allé au PQ avec la fin de cet extrait-là, parce que le PQ est critiqué beaucoup par Québec solidaire de stigmatiser et diviser. Mais savais-tu ça, toi, qui étais souverainiste?
Bien, tu sais, il est un des membres fondateurs de Québec solidaire, là, tu sais, alors, puis c'est assez drôle parce que quand il est allé au NPD, on l'accusait d'être un crypto-souverainiste. Alors là, on l'accuse d'être un crypto. Moi, je veux dire, je ne me formalise pas tant que ça, de cette réalité-là. Au moment où Alexandre Boulris a été recruté, dans les faits, par Thomas Mulcair pour venir... au fédéral, au NPD, c'était pas une époque d'effervescence souverainiste, là.
En effet.
Donc, il y a quand même des moments dans la vie ou dans ta perspective comme politicien ou comme aspirant politicien, tu peux dire, c'est quoi, moi, ma priorité en ce moment, tu sais?
Ouais, puis ils peuvent en avoir qui visent le pouvoir, tu sais, parce que là, il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, le NPD visait le pouvoir. Ouais, mais à l'époque de Jack Layton, on a vraiment passé proche, là.
Mais à l'époque de Jack Layton, on a passé proche, puis de dire, moi, je vais aller à Ottawa militer, travailler, pousser pour des politiques progressistes, des réinvestissements dans le filet social canadien, ça se défend, tout comme ça se défend de dire, ben là, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai fait le tour du jardin, le NPD, ça s'en va nulle part, puis Québec solidaire a besoin de moi dans Gouin, et donc je rentre à la maison. Donc moi, je me formalise pas tant que ça, je te dirais, de ce slalom dans les priorités idéologiques, là. Je pense que c'est aussi le reflet de la réalité de bien des Québécois, dans les faits, face à la question nationale.
Oui, mais on va se le dire, c'est une grosse prise pour Québec solidaire. Là. J'ai écouté son point de presse ce matin.
Juste le ton, hein?
Ah, le ton, la prestance. Je vais juste vous faire entendre également sa différence entre la gauche et la droite.
Et j'ai appris dernièrement les mots de Françoise Sagan, qui m'inspirent aussi et qui sont extrêmement clairs. Pour la droite, les inégalités, c'est inévitable. Pour la gauche, les inégalités, c'est inacceptable.
Il y a le ton d'un chef de parti.
Non, il est très bon, il a beaucoup d'autorité. Il est très, tu sais, il a quand même 15 ans de vie politique. Exactement. Sous la ceinture. Il a été chef adjoint du NPD, etc. Donc, c'est sûr que c'est une grosse prise. Puis, c'est une grosse prise aussi parce que, tu sais, il a été élu parce qu'il est Alexandre Boulris, là, tu sais, pas... Ouais. Et il est issu, tu sais... C'est pas monochrome, le NPD. Il y a des néo-démocrates plus pragmatiques, là. Lui, c'est un progressiste, mais pragmatique, là. Mm-hmm. Et je pense que Québec solidaire a besoin, dans le contexte de la campagne électorale qui s'en vient, d'avoir des têtes d'affiche qui incarnent cette gauche plus pragmatique, là. Parce que c'est tout le problème de QS en ce moment, tu sais. C'est la fracture qu'il y a entre le caucus et le parti, mais c'est le fait que même leurs super bonnes idées peinent à percer l'espace public. T'sais. C'est eux, la semaine dernière, qui mettaient de l'avant l'idée selon laquelle il faut mettre un terme aux offres aveugles, là, sur l'achat de maison.
Oui.
Là. C'est que tu sais que quelqu'un va déposer une offre, tu ne sais pas c'est quoi le montant, puis donc tu as une surenchère à l'aveugle, là, qui est un contributeur majeur, là, je dirais, de l'escalade et de la surchauffe immobilière.
Je l'ai vécu l'an passé en essayant de m'acheter une maison. C'était très difficile de savoir. Ben, ouais, coudonc, y a-tu quelqu'un qui va faire une plus grosse offre? Il y a des maisons évaluées à 300 000 qui partaient à 525
000. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, c'est une super bonne idée. Ça fait débat, etc. Mais c'est difficile, je pense, pour PS, pour QS en ce moment, de franchir la barre de la discussion publique là, tu sais, au-delà des couloirs du Parlement. Puis je pense qu'un joueur comme Alexandre Boulris peut les aider à faire ça.
Très convaincu. Pour les auditeurs de Boulevard 101, Alexandre Boulris sera en entrevue demain matin, 8h45, dans Marceau le matin. Emmanuel, toujours un plaisir. On se reparle demain.
Très bien, au revoir.
Salut, Emmanuel Latraverse dans le caucus avec nous du lundi au jeudi. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on vous tient au courant de l'actualité avec un bloc nouvelle. Et Luc Laliberté va être avec nous pour parler de cet attentat envers l'administration Trump lors justement du dîner des journalistes dans un hôtel, hôtel Hilton à Washington. On va finir là, Pascal Sévan, en parlant du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. 2-2 maintenant dans la série. Le Lightning est revenu de l'arrière. Perdait 2-0 hier, l'a emporté 3-2. On a une série exceptionnelle présentement. Entre les deux équipes, c'est Alex Laramé qui sera avec nous.